France Inter, le 18-20.
À quel âge peut-on commencer à faire l'amour? Est-ce que ça fait mal? Il vient d'où le plaisir? Et si j'étais homo? La masturbation, est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis obligée de dire oui? Oulala, demande à ton père. L'autre version étant, oulala, demande à ta mère. Les deux pouvant se retrouver autour de, oulala, demande à ton prof. C'est selon les familles et selon parfois le moment. Mais preuve une fois de plus avec cette polémique ridicule qui montait ces derniers jours, ces questions et leurs réponses n'ont rien de simple. Il a quand même suffi que le ministre rappelle au recteur la loi sur l'éducation sexuelle de 2001 pour qu'on en vienne à ressortir le bon vieux spectre de la masturbation apprise à vos enfants. Elles ont peut-être une vertu finalement. Finalement, ces fausses nouvelles grossières dont on sait très bien d'où elles viennent, elles permettent de parler, de se demander si elle est bien faite, l'éducation sexuelle à l'école, de se demander comment elle a évolué, de se demander comment elle s'adapte aussi, et notamment au mouvement MeToo, de se demander si tout est mal dans ce que les enfants voient sur Internet, de se demander au fond comment les enfants et les ados s'instruisent eux-mêmes sur ces questions, s'il vaut mieux parfois devancer la cour de l'école avec quelques infos basiques quand même. En clair, comment on parle de cul à vos ados, et surtout, allons-y franchement, parce que vous pensez bien que les roses et les choux vont tenir un petit moment, mais pas longtemps avec Internet, alors parlons-en ensemble. C'est maintenant, bienvenue dans le Téléphone Sonne.
Fabienne Sintès. Le Téléphone Sonne.
Et le premier, c'est vous. La première, c'est vous, pardon, Alice, vous êtes dans les Yvelines. Bonsoir Alice.
Bonsoir.
Et soyez la bienvenue, on vous écoute.
Merci. C'est un simple témoignage. J'ai un fils qui est au collège, il est en troisième. Et je constate qu'il va avoir cette année un programme de vie affective et sexuelle pour les filles/garçons. Donc dans la semaine du 15 au 19 octobre, il va pas en avoir pendant une semaine. Hein. J'imagine que ça va être une intervention assez courte de quelques heures. Et moi, je vois que ça arrive là en troisième, alors que pratiquement depuis la sixième, on a constaté qu'il avait eu accès à des images non adaptées à des enfants, à des contenus qui n'étaient pas adaptés à des enfants par l'entremise d'écran à l'extérieur de la maison. Et nous, on a commencé à parler de sexualité. Et j'avais déjà signalé ça au collège. J'étais un peu affolée parce que le mien découvrait ça en sixième. Mais apparemment, il y a des enfants qui étaient informés dès le primaire de ces contenus qui sont pas du tout adaptés aux enfants. Et au collège, on m'a expliqué qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens et que ça commencerait que... Ils prenaient bien en compte ma demande, mais que ça commencerait qu'en quatrième, troisième. Et je trouve que ça vient un peu tard dans leur parcours parce qu'ils sont abreuvés de pornographie. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on peut pas tout maîtriser. Et il faut leur en parler, avant que l'école ne leur en parle.
Et devancer l'appel, j'allais dire. Merci beaucoup pour ce témoignage, Alice, qui permet de mettre beaucoup de choses en perspective. Pour vous répondre et pour discuter avec nous jusqu'à 20h ce soir, Brigitte Accarella, bonsoir. Vous êtes infirmière scolaire, secrétaire générale du Syndicat national des infirmiers éducateurs de santé. Et bonsoir Samuel Comblé. Vous êtes psychologue de l'enfance et de l'adolescence, directeur des opérations de l'association e-enfance. Vous avez écrit « La sexualité de vos ados », c'est publié chez Solar. Je commence avec vous, Samuel Comblé. Elle a raison, notre auditrice, la troisième, c'est finalement très tardif.
Effectivement, elle a totalement raison et c'est vrai que c'est important de rappeler ce que vous avez dit au début de l'émission, à savoir que l'école se saisit de cette question importante de la sexualité, mais l'école ne peut pas tout faire. Je pense que les parents ont aussi besoin d'aborder le sujet. C'est vrai que parler de sexualité en troisième, sachant que beaucoup de jeunes enfants, et les statistiques le disent, on dit que 50% des classes de CM2 auraient déjà vu des images pornographiques au cours de leur vie, soit par accident, soit parce qu'ils ont été chercher ces images. Et quand on voit la violence des films pornographiques aujourd'hui, on se questionne, on s'interroge et on peut s'inquiéter en tant que parent de se dire, est-ce que c'est le meilleur message qu'on a envie de transmettre à son enfant? Est-ce que c'est ça qu'on veut qu'il retienne de la sexualité qui les attend? Je pense que non, et c'est important que l'école se saisisse du sujet, mais c'est aussi peut-être important qu'en famille on puisse oser parler de ce sujet avec les enfants.
Mais ça, j'allais vous demander, est-ce qu'il faut que l'école finalement s'en empare beaucoup plus tôt? Alors elle est censée d'ailleurs s'en emparer beaucoup plus tôt, mais enfin de fait, est-ce qu'il faudrait s'assurer que l'école s'en empare beaucoup plus tôt, ou est-ce qu'il faut simplement dire aux parents, ça va exister les cours d'éducation sexuelle, mais chacun son rôle en quelque sorte?
Je pense que tout le monde a un rôle à jouer dans la découverte de la sexualité. Après, quand on parle de sexualité et qu'on en parle aux enfants, les adultes ont souvent peur d'aborder des questions trop crues. On a toujours peur que les enfants parlent de la sexualité de leurs parents. Je pense que c'est pas du tout ça la question. La majorité des enfants, quand on commence à parler de sexualité, sexualité, ils ont surtout besoin d'être rassurés, que ça ait du sens. Les adolescents, ce qu'ils ont surtout besoin d'entendre, c'est pas trop des techniques sexuelles, ils ont surtout besoin qu'on les rassure sur leur capacité à savoir éprouver du plaisir et à savoir donner du plaisir. La puberté va beaucoup modifier leur corps, ils ont besoin auprès de leurs parents, tout simplement, d'être rassurés.
Brigitte Accard, même tardivement, finalement, est-ce qu'il reste pas plein de questions en suspens? Et comme le disait Samuel Comblé à l'instant, des questions qu'on n'ose pas poser à ses parents, en fait, mais qu'on aborde peut-être plus facilement en troisième et plus facilement avec vous, l'infirmière scolaire, ou avec d'autres?
Alors effectivement, ils abordent plus facilement avec nous, puisque nous ne sommes pas les parents, nous ne représentons pas l'autorité, ni d'ailleurs l'autorité dans l'école. Donc on a deux façons. On a soit une façon collective, effectivement, comme la dame disait que son fils allait avoir une séance d'éducation à la sexualité ou à l'éducation à la vie amoureuse et affective.
Ce qui est quand même une périphrase. Allons-y, Franck. Si on commence comme ça, vie affective, et c'est quoi déjà, pardon?
La vie affective et sexuelle.
Oui, on dit souvent ça.
Les vases.
J'imagine les ados dire, commençons donc notre vie affective et sexuelle. Si on commence comme ça dans la détermination, on n'est pas sorti des ronces, non?
Alors, les jeunes parlent de sexe.
Ben voilà.
Tout simplement.
Ben oui, c'est un peu l'idée, ouais.
Et donc effectivement, ils ne posent pas les mêmes questions qu'ils pourraient poser à leurs parents si l'espace parent le permet. Parce que comme vient de dire M. Comblé, tous les parents n'ont pas la possibilité de pouvoir en parler avec leurs propres enfants. Donc on a effectivement ces séances collectives, pour ma part en ce qui me concerne, mixtes, garçons-filles. Et puis au-delà de cette action collective, on peut effectivement recevoir à la demande des élèves, des personnes individuellement, ou avec un copain, parce qu'ils ont des questions un petit peu plus personnelles.
Ça arrive souvent, ça,
à poser.
Ou pas?
Ça arrive. Ça arrive. Alors, bien sûr, c'est jamais pour eux, c'est pour le copain.
Bien sûr.
C'est difficile d'avouer qu'on a besoin d'une réponse. Mais c'est pas grave. On a l'habitude et c'est pas gênant. Donc, on donne la réponse. Et puis, il faut mettre en confiance le jeune pour qu'il arrive ensuite à formuler ce dont il a besoin de savoir.
Mais c'est quoi?
D'être rassuré.
Brigitte Accard, c'est quel genre de questions qu'on a envie de poser en face à face avec l'infirmière scolaire et qu'on n'arrive pas à poser aux parents? C'est quoi l'idée, en fait?
Alors, les jeunes filles, c'est tout ce qui est contraception, ce qui est aussi savoir si on a l'âge ou pas l'âge, parce qu'il faut-il avoir un âge pour aller coucher avec une fille, coucher avec un garçon? Est-ce que je suis normale, pas normale, dans le bon âge, pas dans le bon âge? Les préservatifs, comment je les mets? Où est-ce que je peux en avoir?
Vous en avez, vous, ou pas?
Oui, on en a dans les infirmeries. Donc nous, effectivement, on leur conseille de les utiliser. Même s'ils en font des ballons, c'est pas grave. Mais il faut qu'ils apprennent à...
Des bombes à eau.
Des bombes à eau, c'est pas grave.
On a tous les mêmes souvenirs.
Il faut effectivement qu'ils apprennent à les manipuler et qu'ils arrivent au moment crucial de me le mettre, de pouvoir effectivement ne pas le découvrir quand ils vont ouvrir.
Et puis que ce soit ludique, enfin...
Voilà, que ça rentre dans le jeu sexuel, puisque ça, on leur dit bien que c'est dans le rapport sexuel et que ça fait partie du rapport et du plaisir. Donc effectivement, vous voyez, toutes ces questions-là, ils n'osent pas les aborder avec les parents. Effectivement, les connaissances, ils peuvent quelquefois les aborder avec leurs parents, mais ou les rassurer sur la taille du pénis. Alors ils vont demander s'il y a plusieurs tailles de préservatifs, parce qu'ils ne vont pas oser demander si le pénis est assez long, trop court, enfin ça, ils vont pas oser. Ils vont passer par des questions détournées, mais c'est pas grave. Nous, on décode et on répond.
C'est votre métier de déconner. Bonsoir, Gabrielle.
Bonsoir.
Vous êtes prof de SVT, vous, donc en classe de 4e, racontez-nous.
Oui, donc je suis professeure de SVT dans un établissement de Seine-Saint-Denis depuis plusieurs années. Et je voulais témoigner par rapport à cette notion de discuter avec les parents, dans le sens du fait où j'ai été assez choquée cette année d'avoir des élèves qui me disaient, mais madame, on n'ose même pas dire à nos parents qu'on aborde ce sujet-là en cours. Et c'est vrai que des fois, la communication avec les familles est assez difficile.
Qu'est-ce que vous répondez dans ces cas-là? Est-ce que, en gros, la réponse c'est, au fond, c'est pas grave, puisqu'on peut en parler ensemble et puisque tu peux en parler avec l'infirmière? Qu'est-ce que vous répondez aux gamins dans ces cas-là?
Non, en général, on rappelle toujours le principe de la connaissance de son corps, qui est important, dans le sens où on va apporter des éléments très scientifiques et de la construction d'un savoir méthodologique pour dans le cadre de ce sujet-là. Et après, on leur rappelle aussi qu'il y a différentes structures et différentes personnes avec qui ils peuvent en parler s'ils ne se sentent pas à l'aise d'en parler avec leurs parents.
Mais vous, c'est pas le cas, par exemple. Si un gamin vient vous voir, vous, puisque vous êtes son prof de SVT et que vous lui avez donné un certain nombre de notions, y compris scientifiques, et qu'il a d'autres questions, vous renvoyez la question soit à l'infirmière scolaire, soit à quelqu'un de formé. Vous faites comment dans ces cas-là, Gabrielle?
J'avoue que j'ai pas été extrêmement bien formée à répondre à certaines questions qui des fois peuvent toucher l'émotionnel, mais on essaye plus facile. Moi, j'essaie de les faire rentrer dans un jeu, de leur faire comprendre. Bon, alors, comment est-ce que tu pourrais faire pour vérifier cette information? Ou alors, qu'est-ce qu'on a appris qui pourrait te permettre de par toi-même trouver la réponse, ou alors aller vers la bonne personne?
Merci pour ce témoignage, Gabrielle. Samuel Combet, il y a deux choses qui m'intéressent dans ce que dit Gabrielle. D'abord, il y a le démarrage. Elle est prof de SVT, donc on parle d'abord de ce qui est scientifique, en fait. Alors, c'est pas forcément le cas de Gabrielle. On se réfugie peut-être aussi derrière le scientifique. Est-ce qu'il faut en passer par là pour mieux expliquer ensuite des choses très concrètes qui ont un rapport avec la sexualité ou pas?
Ça peut être une porte d'entrée. Après, je pense qu'on peut parler de sexualité peut-être même bien avant que l'adolescence commence. La circulaire du ministre de l'Éducation nationale a fait polémique ces derniers temps parce que on imaginait qu'on allait expliquer à des enfants de maternelle comment se masturber. Quand on lit bien la circulaire, il n'est pas du tout question de ça. Évidemment. Est avant tout question de respect de soi, de respect de l'autre, d'écoute de soi, d'égalité homme-femme, etc.
Évidemment.
Et je pense que c'est les fondamentaux pour pouvoir aborder la sexualité de manière complètement épanouie et sécurisée. Déjà, parlons de relations entre êtres humains avant d'aborder des questions techniques ou scientifiques. Et c'est déjà un bon préalable, à mon avis, pour être sûr que les adolescents vivent des relations sexuelles saines et épanouies.
Il y a autre chose dans la question de Gabrielle, Brigitte Accard, sur la formation. J'entends ce qu'elle dit quand elle dit « moi je suis pas tout à fait formée à répondre à ce genre de choses ». Vous l'êtes. Est-ce qu'il faudrait peut-être donner ce genre de formation, rendre cette formation plus accessible à d'autres profs? Je ne sais pas.
Alors effectivement, nous on est formés bon, déjà par notre diplôme d'état infirmier. Au départ, et ensuite par l'Éducation nationale qui nous forme à cette intervention, non pas sur des connaissances parce qu'on est censé les avoir avec notre diplôme d'État, mais une réflexion sur soi-même, sur ce qu'on a vécu, comment on le vit, comment on peut le transmettre au travers auprès des élèves. Donc effectivement, cette formation, elle est indispensable pour pouvoir se positionner correctement, sans donner non plus, il faut faire ci, il faut faire ça aux jeunes, parce que c'est pas du tout ce que notre objectif. Donc effectivement, cette formation, elle est importante, et d'ailleurs, la circulation qui vient de sortir du ministère de l'Éducation nationale parle bien qu'il faut des personnels formés et des associations qui soient agréées et qui prouvent de leur efficacité et de leur langage. Parce qu'on ne peut pas non plus... Effectivement, la prof de SVT, elle est compétente dans sa pédagogie, par quelle que soit la thématique, autre même que sexualité, mais elle est compétente dans sa pédagogie, mais effectivement pas prête à répondre à ce type d'élèves. En plus, je suppose que c'est entre un intercours, donc c'est pas non plus facile pour elle de pouvoir aller au-delà de la question, parce que ça prend du temps, ça. Il faut mettre l'élève à l'aise, donc ça va prendre un certain temps. Et pendant ce temps-là, les autres de la classe suivante arrivent. Enfin, elle n'a pas, non, d'une part, pas formée, et d'autre part, pas
c'est
non
pas à
plus,
ce moment-là
voilà, c'est pas possible.
On parle de choses dont les enfants parlent peut-être entre deux portes, mais pour eux, c'est finalement beaucoup plus important que ce qu'ils ont l'air de montrer quand ils sont juste là, entre deux portes. Bonsoir, Anna.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue, Anna, on vous écoute.
Merci. J'avais une question qui est vraiment dans la continuité de vos échanges. J'ai une fille de 7 ans et demi qui commence à me poser des questions sur la sexualité. Alors, j'entends bien l'implication que doivent avoir les parents sur ces sujets-là et qu'il faut commencer le plus tôt possible. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver le niveau de langage adapté à cet âge-là. Voilà.
Est-ce que vous bottez en touche, du coup, Anna, ou pas? Vous faites quoi?
Alors, j'ai essayé de chercher sur Internet comment faisaient les parents dans la même situation, et ils avaient tendance souvent à se reporter sur des livres qui sont faits par des professionnels. Mais j'ai trouvé que les livres que j'ai trouvés étaient plutôt à partir de 8 ans et pré-ado, et je trouvais qu'elle était pas encore dans cette catégorie de pré-ado, quoi.
Mais les questions, voilà. Les questions de votre fille, Anna, est-ce qu'elles sont liées à la sexualité réellement à 7 ans, ou est-ce que c'est comment on fait les enfants, etc. Ou est-ce que c'est plus, comment ça marche?
Il y a plusieurs choses, ouais. Il y a effectivement les questions comment ça marche, comment on fait les enfants, et puis il y a au détour aussi des jeux qu'ils ont à l'école, des discussions qu'ils peuvent avoir entre enfants. On voit que ça remonte à un certain nombre de sujets sur lesquels on a envie de les sensibiliser et de les éveiller, quoi.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Anna. Brigitte Accard, j'imagine qu'il n'y a pas d'âge, évidemment. Enfin, il y a l'enfant qui l'aborde, et il faut savoir comment on répond à son enfant une fois qu'il a abordé le sujet.
Voilà, donc effectivement, à l'école, les enseignants du premier degré peuvent effectivement commencer à aborder le sujet. Alors effectivement, on ne rentre pas dans le vif du sujet en primaire.
Non.
on apprend effectivement, on leur explique. Alors on sort des choux et des roses, hein, parce que ça passe plus à cet âge-là, les choux et les roses. Donc effectivement, on leur explique sans vraiment leur expliquer. On leur donne pas des détails techniques. On parle de papa, de maman, la graine, enfin comme les parents peuvent faire, voilà. Bien sûr, on n'aborde pas tous. Enfin voilà, ça doit être adapté à l'âge de l'enfant. Et c'est vrai que c'est important de commencer le plus tôt possible avec les paroles des enfants, de façon à ce qu'il y ait une continuité dans l'apprentissage et dans l'éducation. Et qu'on se l'interdit pas une réponse, parce que si on interdit une réponse, l'enfant va fantasmer sur des choses, et c'est comme ça aussi quelquefois qu'ils vont chercher.
Puis échanger
sur Internet,
des choses, voilà, dans la cour de l'école ou sur Internet.
Dans la cour d'école ou sur Internet, parce qu'ils n'ont pas eu la réponse qu'ils attendaient et qu'ils vont considérer ça comme tabou, donc ils vont plus jamais poser une seule question.
Samuel Comblé, est-ce que logiquement, parce qu'il y a une chose qui est toujours intéressante et que redisent tous les spécialistes de ce genre de questions, l'âge du premier rapport sexuel ne change pas, y compris avec les informations qu'on peut avoir sur Internet ou ailleurs. Mais est-ce que l'âge des premières questions, comme là la fille d'Anna, est beaucoup plus bas qu'il ne l'était à une période ?
Ah, je pense que ça évolue effectivement, d'où l'importance de pouvoir en parler assez rapidement et durant l'enfance. Ce qu'il faut se dire, c'est que si c'est pas les adultes qui vont vers les enfants pour en parler, les enfants vont pas nous attendre. Ils vont aller chercher l'information auprès des sources qu'ils vont pouvoir trouver. Ça peut être les copains, mais c'est pas forcément des sources fiables. Et ce sera Internet et notamment les vidéos pornographiques. Je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément le meilleur message qu'on a envie de transmettre. Je pense que beaucoup de parents sont très angoissés de parler de sexualité à leurs enfants parce qu'ils imaginent d'emblée qu'on va devoir rentrer dans les questions techniques. Et je pense qu'encore une fois, c'est pas ça qu'ils attendent. Et peut-être que on peut déjà donner un premier conseil aux parents. Avant de parler, peut-être qu'on pourrait écouter les enfants et vérifier quel est leur niveau de connaissance, tout simplement. Les enfants en parlent dans la cour de récréation. Ils ont accès à un certain nombre d'informations. La sexualité fait partie de la vie. Aujourd'hui, vous regardez n'importe quel magazine ou émission de télé, on en parle. Donc les jeunes se questionnent. Je pense qu'effectivement, ils se questionnent peut-être un petit peu plus précocement que dans le passé. Et surtout, ils ont l'occasion de trouver des informations dans plein d'endroits. Donc, il faut que les parents osent. Et pour l'avoir fait dans mon travail en tant que psychologue de l'enfant et de l'adolescent, je peux vous dire que quand on ose, quand ils ont en face d'eux un adulte qui ose poser les choses, utiliser les bons termes sans passer par quatre chemins, et ben les enfants et les adolescents sont très intéressés et posent des questions extrêmement intéressantes et avancent dans leur cheminement.
On va rester autour de ce thème-là avec Valérie. Bonsoir Valérie.
Oui, bonsoir.
Et soyez la bienvenue, on vous écoute.
Merci. Moi, j'avais envie de rebondir un tout petit peu sur ce que disait Samuel Comblé à l'instant, à savoir si un parent parle avec son enfant de façon directe, honnête, de la sexualité, est-ce que ça suffit ? Parce que ce que je vois, moi, mon expérience personnelle, c'est que, en ayant été transparente avec ma fille qui a bientôt 14 ans, là, je pensais qu'elle avait à peu près toutes les informations possibles, nécessaires, sur lesquelles elle pouvait s'interroger, sachant que dans notre famille, il y a aussi des homosexuels, donc voilà, la sexualité, elle est transparente et elle est expliquée et elle est justifiée et donc voilà, la parole est très libre. Mais tout à l'heure, quand je lui ai dit que j'allais écouter cette émission et que si elle voulait l'écouter avec moi, ce serait peut-être pas mal, elle m'a dit bah oui, pourquoi pas. Et le début de l'émission, elle me fait savoir d'une part qu'elle apprend encore des choses à l'école en cours de SVT, bon ça m'étonne, mais très bien, tant mieux, et qu'elle en apprend encore plus avec ses copains du collège, ce qui ne me surprend pas trop. Mais là où ça m'étonne, et là où je maîtrise moi plus rien, c'est que ses copains de collège sont sacrément informés. Mais informés de façon plus violente, parce que ça passe beaucoup, en effet, par des informations qui vont piocher sur Internet. Et voilà, donc il y a une espèce de dissonance cognitive, peut-être entre moi et ma fille, mais en tout cas entre les parents et les enfants, qui pensent savoir ce que leurs enfants savent, sans réellement toucher à la réalité de ce qu'ils connaissent.
Merci beaucoup Valérie pour ce témoignage, c'est pour vous Samuel Comblé, c'est un peu la fameuse blague il faudrait qu'on parle sexualité ensemble, oui qu'est-ce que tu veux savoir en quelque sorte.
Exactement.
Mais elle a raison Valérie, il y a un décalage entre ce qu'on croit que l'enfant sait et ce qu'on lui a transmis et ce qu'il sait en réalité. Absolument. En fait et le champ de ce à quoi il a accès.
D'où l'importance de commencer par sonder un petit peu quel est son niveau de connaissance pour éventuellement avancer avec lui. Je pense aussi qu'il faut être clair sur ce qu'on va conseiller peut-être aux parents. Parler de sexualité ne veut pas dire tout dire. Je pense qu'il y a besoin de garder un jardin secret. La sexualité fait partie de la sphère de l'intime. On n'a pas à raconter tout dans les détails. On a besoin certainement de transmettre un certain nombre de conseils au départ, comment se protéger des maladies sexuellement transmissibles, comment se protéger des risques de grossesse, comment protéger l'autre, comment se protéger. Et après, l'adolescent, il va vivre sa vie comme il le doit. Je fais souvent le parallèle entre relations sexuelles et chasse au trésor. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. Si vous faites une chasse au trésor avec moi et que vous me dites d'emblée où se trouve le trésor, vous m'enlevez une partie du plaisir. Si par contre, vous me dites, voilà, il y aura un trésor à trouver, c'est le plaisir sexuel qu'on peut éprouver et je vais te donner les bonnes consignes pour déjà aller sur le bon chemin pour trouver le trésor. Je vais te donner un certain nombre de préalables et après tu feras ton chemin pour le trouver. Bah, je pense que vous avez le double plaisir. Vous avez la trouvaille du trésor, mais aussi toute la partie recherche.
Brigitte Accard, dans ce que disait Valérie, mais d'autres auditeurs aussi, il y a la crainte de ce qu'on trouve effectivement sur Internet et notamment sur YouPorn ou des choses comme ça. Mais est-ce que tout est vraiment acheté sur Internet? Parce qu'il y a aussi des forums, des choses comme ça entre ados où là, ils peuvent y aller et poser très ouvertement des questions qui peuvent être même extrêmement crues. Et alors peut-être que les réponses sont un peu approximatives, on va dire, puisqu'ils se parlent entre eux, mais c'est important aussi ces moments-là.
Tout à fait, c'est important tout à fait qu'ils puissent trouver un échange avec les copains et les copines. Bon, tous les sites ne sont pas à bannir du réseau Internet. Il y a des sites qui d'ailleurs sont mis en place par le ministère de la Santé, comme Fil Santé Jeune par exemple, qui permet effectivement de garder un anonymat. Alors, ils posent beaucoup de questions auprès de l'infirmière. Certains n'auront pas à venir voir l'infirmière ou n'auront peut-être pas eu la réponse qu'ils auraient souhaité avoir ou l'avoir la confirmation par quelqu'un d'autre de ce que l'infirmière a pu leur dire. Et donc, il y a quand même des sites Internet, des réseaux téléphones qui sont tout à fait adaptés aux jeunes et qui vont pas donner de fausses informations et qui sont d'ailleurs mis en place par le ministère. Donc, contrôlés. Il y a aucun souci. Effectivement, après, il y a des sites plus ou moins un petit peu dangereux pour les jeunes parce qu'on leur donne des informations erronées.
Tiens, Brigitte Accard, voici une collègue à vous. Bonsoir, Jeanne.
Bonsoir.
On vous écoute, Jeanne, allez-y.
Oui, bonsoir. Je voulais témoigner de ce que nous faisions, nous, dans le Haut-Rhin, depuis plusieurs années autour de cette question. Nous proposons une animation à tous les élèves de 3e, animation qu'on appelle question d'amour. Justement, tout à l'heure, vous traitiez de l'intituler. Eh bien, nous, on a choisi de l'appeler question d'amour parce que on ne s'occupe pas que du scientifique de la biologie, mais aussi de l'affectif, du relationnel. Donc, nous travaillons en binôme avec des sages-femmes du centre de planification et d'éducation familiale qui, elles-mêmes, reçoivent dans leur cadre de leur consultation des adolescents et qui ont donc une parfaite connaissance de ces problématiques-là. Donc, l'avantage de travailler en binôme, les élèves identifient une personne ressource en dehors de l'école vers laquelle ils peuvent se tourner en cas de besoin de compléments de questions, tests de grossesse, etc. Et l'animation se fait en binôme avec l'infirmière qui a le double avantage aussi d'être identifiée à ce moment-là comme une personne ressource au sein de l'établissement s'il y avait des questions qui devaient se poser dans un cadre confidentiel, etc. Et ça nous permet aussi d'observer un peu les élèves que nous connaissons déjà, des élèves qui ont vécu des choses un peu particulières autour de ces questions-là, et de les repérer, ou en repérer d'autres qui n'avaient jamais été repérés, et de les revoir et de discuter avec eux dans un cadre tout à fait confidentiel.
Pardon, Jeanne, finissez, excusez-moi. Pardon,
oui,
allez-y.
Oui. Voilà, et donc cette animation est toujours basée sur un échange, comme me disait M. Comblet. Nous partons des questions et des connaissances des jeunes pour répondre à leurs questions. Nous ne nous mettons pas devant en leur disant petit 1, petit 2, mais c'est vraiment un échange, un débat dans un cadre éthique et respectueux.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Jeanne. Ce que j'entends aussi dans le témoignage de Jeanne, Samuel Comblet, c'est les différences incroyables qu'il peut y avoir d'un endroit à un autre. En fait, voilà des enfants ici en Alsace, on l'a entendu grâce au charmant accent de Jeanne, qui visiblement ont tout ce qu'il faut pour avoir toutes les connaissances qu'ils souhaitent ou pas d'ailleurs. En tout cas, ouverture pour poser toutes sortes de questions. Puis d'autres endroits où visiblement c'est beaucoup plus compliqué.
Ben oui, c'est compliqué. Madame Accard rappelait qu'il y a des services qui sont destiné à des enfants qui peuvent être éloignés éventuellement des sources d'information. Fil Santé Jeune, peut-être précise le numéro 0800 235 236, c'est un numéro fiable sur lequel tous les enfants de France peuvent appeler entre 9h et 23h tous les jours de l'année. Et effectivement, il faut partir du principe que tous les territoires ne sont pas fournis de la même manière en centre de planification et que tous les établissements scolaires, malheureusement, malgré les consignes qui sont données par le ministère, ne respectent pas le fait de faire ces informations auprès des jeunes. D'où l'importance, encore une fois, de peut-être relayer au sein des familles, de pouvoir oser en parler. Le livre que j'ai écrit s'appelle « La sexualité de vos ados ». En parler, ce n'est pas si compliqué. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand on ose en parler, on se rend compte que c'est pas si compliqué. Sur la couverture, il y a une pomme. Et l'idée de l'éditeur Solar était de se dire, bah voilà, quand on parle de sexualité, c'est un peu comme de manger une pomme. Mm-hmm. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où on fait le choix, et ben, enfin,
la
peut
pomme
y
et la sexualité, il y a plein, plein de gens.
Il y a plein de choses à y voir, effectivement. Mais surtout la
simplicité. On peut le prendre par tous les bouts, ouais. Si je puis dire. Brigitte Accard, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. Alors, vous qui, pardon, vous êtes infirmière scolaire depuis un certain temps.
Oui,
vous pouvez. Est-ce que les questions ont beaucoup bougé? Parce qu'effectivement, j'imagine bien que pendant un moment, on s'est un peu cantonné à la pilule, la contraception, etc. On arrive aujourd'hui à des choses qui sont différentes. On parle beaucoup de consentement, c'est totalement dans l'air du temps. On parle de genre, c'est aussi totalement dans l'air du temps. Donc, est-ce que ces questions sont venues jusqu'à vous, en fait, de la part des élèves ou pas?
Alors, les questions, elles ne viennent pas forcément jusqu'à nous. C'est nous qui allons obligatoirement vers eux. Parce que, comme disait ma collègue, on donne pas de connaissances didactiques parce qu'ils sont censés les avoir dans les programmes de SVT, comme a pu le dire la collègue enseignante de classe de quatrième. Donc, effectivement, nous allons vers eux. Nous travaillons sur le consentement. Important pour les jeunes filles, enfin, de la part des garçons, c'est souvent quand même les jeunes filles qui subissent le non-consentement. Donc, effectivement, on y travaille beaucoup, beaucoup. Et dès la primaire, on peut travailler sur la différenciation du sexe. On peut travailler sur la tolérance, le respect de l'autre, quel qu'il soit. Et ça se travaille dès le primaire par les, enfin ça devrait se travailler dès le primaire par les enseignants, et surtout le respect de l'autre et le respect de soi, parce qu'on peut respecter l'autre que si on se respecte aussi soi-même. Et donc ça, c'est très important, effectivement, le consentement et tout ce qui est la différence de l'autre et la tolérance de la différence de l'autre.
Et vous avez le sentiment que ces questions-là sont de mieux en mieux intégrées, y compris par les gamins qui peuvent être jeunes, que vous voyez, c'est-à-dire effectivement l'homosexualité ou toutes ces questions-là, est-ce que oui, ça leur paraît finalement assez banal tout ça, plus aujourd'hui qu'il y a quelques temps ou pas? Vous faites non avec la tête.
Non, ils sont un peu intolérants sur l'homosexualité, en particulier les adolescents. Alors en vieillissant, ça va un peu mieux parce qu'ils respectent un peu mieux, mais enfin ils respectent, mais ils sont très intolérants. Ils ne comprennent pas, ils sont dans l'intolérance et
donc dans les moqueries, donc dans tout ça, ce qui doit être extrêmement compliqué.
Voilà, tout à fait. Ils ne respectent pas du tout le bon. Après, le respect fille-garçon, ça va à peu près. Puis on y travaille et puis dans la vie scolaire, dans les vies de l'établissement, ça se travaille de toutes les façons. Les mains aux fesses, c'est pas toléré, donc forcément c'est un rappel. Voilà. Donc ça, le respect, il faut quand même travailler dessus. Alors effectivement, ce qui a évolué au fil des années, on en parle depuis tout à l'heure, c'est tous les accès à l'information qui ont effectivement changé et que l'Internet a ouvert un monde de connaissances qui n'existaient pas auparavant. Alors du coup, très bizarrement, malgré ces connaissances Internet, les remèdes de grand-mère existent encore. On parle encore de la méthode des températures.
Ah bon ?
On me parle encore que l'on peut pas tomber enceinte dès le premier rapport. Donc toutes ces connaissances de grand-mère, voire même d'arrière-grand-mère, existent encore malgré tout cet apport Internet que l'on peut avoir depuis ces quelques années. Donc ça évolue, mais ça n'évolue pas totalement, parce qu'il y a encore ces fausses croyances qui existent et qu'il faut démonter, parce que ça reste dans la tête des jeunes filles et des jeunes hommes.
Avec cette question sur franceinter.fr, je suis déçue qu'aucun intervenant ne parle de l'influence néfaste des religions concernant l'enseignement de la sexualité à l'école. Est-ce que ça joue, Samuel Comblet? Est-ce qu'on a l'impression que un certain nombre de parents, en tout cas, freinent des cas de fer contre l'éducation sexuelle à l'école réellement au nom de certains principes religieux?
Oui, on peut pas dire qu'il n'y ait pas d'influence, bien évidemment, et c'est vrai que ça peut être un frein. Je pense que ça l'est peut-être un petit peu moins, puisque, comme dit Madame Accard, il y a de plus en plus de sources d'informations et que la religion aujourd'hui a peut-être une influence un peu moins forte dans les familles.
Bah, encore que, en fait,
mais voilà, trop, encore ouais. Que, vous avez raison. Donc, bien sûr que c'est compliqué. Je dirais que l'influence, elle est surtout auprès des parents. On est encore peut-être dans une transmission de ce que l'on a reçu en tant que parent, et peut-être qu'il y a encore quelques dizaines d'années, l'influence religieuse était très présente et empêchait de pouvoir parler de masturbation, d'éjaculation, etc. de manière totalement facile.
J'ai 36 ans et j'ai le souvenir que quand j'étais au collège, nous avions eu plusieurs interventions sur la sexualité. J'ai l'impression que nous étions plus informés sur le sida et autres maladies sexuellement transmissibles, d'où des interventions plus fréquentes sur la sexualité. C'est une impression, celle de Julie, Brigitte Accard, que elle, à 36 ans, était finalement mieux informée que les enfants aujourd'hui?
Non, ils sont informés, les jeunes, aujourd'hui, des risques des IST ou enfin du sida. Mm-hmm. Ils sont informés. Ils sont même peut-être plus informés par rapport au port du préservatif. Effectivement, c'est un peu plus rentré dans les habitudes des jeunes et ils sont mieux informés. Mais je trouve pas qu'ils soient moins informés qu'il y a quelques années.
En tout cas, il y a eu une période, pour le coup, moi, c'est ma génération, où on nous a réellement, parce que ce sont les années sida, etc., donc il y avait des messages à transmettre qui étaient terriblement graves, en fait.
Oui, mais les messages, ils ont pas porté leurs fruits parce que finalement, les taux de mortalité du sida, ils sont toujours les mêmes. Bon, maintenant, on arrive un peu mieux parce qu'il y a des traitements. On va pas rentrer dans le thème du sida, c'est pas le but de l'émission. Mais je veux dire, ils ont pas pour autant porté leurs fruits.
Mais c'est grâce à ça que vous avez des préservatifs, vous, que vous pouvez donner aux enfants aujourd'hui.
Et les jeunes, quand même, ils sont informés de ces maladies transmissibles.
Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
On vous écoute Sandrine, allez-y.
Eh bien écoutez, moi j'écoute attentivement l'émission depuis tout à l'heure et en fait dès le début m'est venue à l'esprit l'attitude qu'on a décidé d'avoir mon mari et moi avec notre fils qui aujourd'hui a 9 ans. Très très tôt il s'est questionné sur comment je suis née en fait, comment je suis née, d'où je viens, comment ça s'est passé. Et donc progressivement on lui a donné des réponses mais il a très vite voulu aller plus loin et vraiment tout savoir. Donc autant vous dire qu'il sait d'où vient le spermatozoïde et comment ce dernier parvient à l'ovule. Hein, je rentrerai pas dans plus de détails. Oui, voilà, et il a 9 ans. Et quand on lui a donné toutes ces informations-là, il était satisfait. Donc après, il a commencé à nous parler plutôt de l'amour, de est-ce qu'on est avec quelqu'un, à partir de quand. Donc bon, et nous, on lui répondait en lui disant que c'était en fonction de ce qu'il sentait, mais qu'en général, c'était quand on était adulte, voilà. Et puis bon, depuis, il pose plus trop de questions. Mais en fait, moi, dans ma tête, en lui racontant ça, je le missionnais, mais je lui ai dit après. Je le missionnais en me disant, on va lui dire les choses comme elles sont, très clairement. Comme ça, à l'école, entre les copains, il saura quoi dire quand il se pose des questions, il aura la bonne information. Et à un moment donné, je lui ai dit, l'année dernière, il avait 8 ans encore, et je lui ai dit, vous parlez un peu dans la cour avec les copains. Il me fait, non, pas trop. Je fais, en tout cas, si jamais ça...
Et c'est pas vrai, bien sûr.
Pardon ?
Et c'est pas vrai, Sandrine, sûrement.
Bah, j'en sais rien, parce qu'il est assez franc et il nous parle assez ouvertement. Mais il était avec des copains et des copines qui parlaient pas trop de ça. Il n'était pas encore mature, je pense, par rapport à ça. Après, là, je sais pas ce qu'il en est plus récemment. Et en fait, donc je lui ai dit, tu sais, si les copains se posent des questions, toi, tu sais plein de choses. Et ça serait bien que tu leur dises, parce que des fois, ils osent pas répondre, demander aux parents. Alors moi, je suis prof depuis 20 ans, et le tabou de la sexualité, il est ce qu'il est. Et qu'on soit en primaire ou qu'on soit au collège, c'est compliqué dans les familles d'en parler. Donc c'était mon petit témoignage sur le sujet.
Et merci beaucoup pour ce petit témoignage, comme vous dites, Sandrine. Il y a Samuel Comblet, moi, il y a une chose qui me fait presque rire, en fait, chez le fils de Sandrine, c'est intéressant. Ce qu'il veut d'abord, c'est des choses qui sont très scientifiques, très concrètes, et puis après, on passe à autre chose. Mais finalement, il y a sûrement des paliers dans ce que veulent savoir les enfants.
D'abord, je rejoins tout à fait le témoignage qui vient d'être donné, parce que ce qui est important, c'est d'avoir un contre-discours, de ne pas uniquement se saisir de l'information qui est transmise par les camarades de classe et par Internet, et au moins d'avoir un message transmis par les parents qui explique les choses de manière très concrète, c'est déjà un premier abord. Ça montre aussi que les parents sont susceptibles de pouvoir accueillir la parole de l'enfant quand il en a besoin. Et visiblement, ce petit garçon, il a besoin d'évoluer et d'avancer. Je pense qu'après, tous les parents sont différents, tous les enfants sont différents. On n'a pas besoin des mêmes choses au même moment, et selon les familles, il peut y avoir des grandes différences. Ce qui est important, c'est encore une fois d'oser ouvrir un petit peu la porte. S'il faut en passer par le côté scientifique, pourquoi pas. S'il faut aborder par les émotions et les sentiments, pourquoi pas. Mais en tout cas, en parler, c'est important.
Et ben justement, ouvrir la porte ou pas, ce sera avec vous, Nathalie. Vous êtes la dernière, on vous écoute, allez-y.
Oui, bonsoir. J'appelle parce que moi j'ai une fille de 15 ans. Et donc je pense que je vais acheter le livre « La sexualité de vos ados ». En parler, c'est pas si compliqué parce que moi je sais pas comment aborder le sujet avec elle, malgré qu'on est... il n'y a pas de tabou à la maison, donc elle est partie tôt en colo, donc tôt elle a été sensibilisée au fait que son corps lui appartient, etc. Enfin, voilà, elle était plus tard, on a eu l'occasion de discuter des rapports amoureux, et là encore, je vais expliquer que c'était
comment dire, en accord des deux personnes, que voilà, que si elle un jour elle ne voulait pas, bah il y avait rien qui l'obligeait et qu'il fallait être amoureux, enfin etc. Donc tout ça, pas de problème. Mais rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, en lui demandant, bon, pas de but en blanc, mais je serais incapable de lui demander si elle a déjà été confrontée à des images pornographiques sur le net, parce que je ne saurais pas comment faire. Donc, ouais, c'est avoir quelques clés pour ça, ça pourrait être intéressant.
Bah, écoutez, Samuel Comblet n'a pas raté sa soirée, puisque vous avez bien compris qu'on a bien compris que vous irez regarder ce qu'il a écrit. C'est intéressant ce que dit Nathalie Brigitte Accard, parce qu'elle ne sait pas très bien quoi lui dire, mais visiblement la gamine non plus, puisque personne n'a vraiment réussi à aborder le sujet de front. Ça doit arriver dans plein de familles, ça.
Ça arrive effectivement dans plein de familles. Et puis je pense que les jeunes, ils ont aussi besoin de leur petit jardin secret qui est à préserver, et les familles aussi d'ailleurs. Le couple a le droit à son petit jardin secret. Donc effectivement, il faut se montrer un peu... Enfin, les parents, si je peux donner un conseil à cette dame, à cette maman, c'est de se montrer ouverte, et les questions, elles viendront d'elles-mêmes. C'est pas la peine de l'emmener de force chez le gynécologue pour qu'il lui prescrive la pilule. Ça servira à rien, à braquer peut-être la jeune fille, ou voilà. Je pense qu'il faut vraiment se montrer à disposition.
Mais souvent, quand les questions viennent pas, c'est juste qu'on n'arrive pas à les formuler devant les parents, mais elles existe. Donc, elle trouve ses réponses ailleurs, finalement, la fille de Nathalie.
Il est probable qu'elle trouve effectivement ses réponses ailleurs, ou qu'elle n'ait pas obligatoirement des questions très pertinentes, et que les questions, elles viendront après. Il faut... En fait, il y a aussi une évolution sexuelle différente en fonction de chaque jeune. Ça peut... Alors, c'est sûr qu'il y a une moyenne d'âge, on dit, de relations sexuelles à 17 ans et quelques mois, mais il y en a, c'est à 14, et d'autres, c'est à 20. Donc, effectivement...
Et c'est pas grave, effectivement.
Mais c'est pas grave.
Surtout pas d'âge.
Il faut pas brusquer les choses, parce que là, par contre, on risque de se confronter à un mur et de bloquer la relation qui semble être intéressante entre la maman et sa fille.
Effectivement, c'est jamais tragique, en fait. C'est peut-être ça qu'il faut répéter aussi, Samuel Comblet. Ni d'en parler, ni parfois d'attendre pour en parler.
Et puis, quand on nous en parle, vraiment, on est surpris par la richesse et par la réflexion et le recul que les adolescents peuvent avoir vis-à-vis de ces questions-là. Donc, j'invite vraiment peut-être cette maman à poser la question concernant l'exposition à la pornographie de sa fille. Elle se rendra compte que elle sera extrêmement rassurée. Et ça peut être un débat intéressant au sein de sa famille.
Allez, deux mails. Tiens, avant de nous quitter, bonjour, je voudrais juste dire que pour mes enfants, le guide du zizi sexuel de Titeuf par Zep a été un outil formidable que je recommande à tous.
Absolument.
Et tout le monde est d'accord, il y a beaucoup de mails dans ce sens-là. C'est le livre de chevet de mes deux enfants, nous dit cet internaute dont je ne vois pas le prénom, fille et garçon. Il suffit de le laisser traîner et puis comme ça c'est facile.
Laisser-le traîner dans les toilettes, c'est un bon endroit pour pouvoir apprendre la sexualité de manière complètement confidentielle.
Ils sont des fois dans les collèges, dans les CDI des collèges, on les trouve.
Et ben voilà. Et puis sinon, mon fils a 14 ans, je lui ai dit que le porno était à la vraie vie, ce que Fast and Furious était à la conduite automobile.
Absolument.
Et il a bien aimé l'image. Et ben écoutez, c'est là-dessus que je vous laisse, portez-vous bien.